Décryptualité, semaine 6. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, le sommaire, les échos, équilibre convertit les agriculteurs au logiciel libre, un article de Franck Niederkorn.
Alors, équilibre, un nom sympathique déjà, avec un K et un Y au début. Et ça parle effectivement d'agriculture, de logiciel intégré qui fait pas mal de choses. Donc, c'est pas un logiciel nouveau, donc on aurait pu en parler déjà dans la revue de presse, je crois pas que ça a été le cas, mais bah, ils s'étendent et ils vont faire un petit peu d'autres domaines, vinicoles notamment. C'est intéressant parce que ça montre de l'innovation dans des domaines inattendus, et le fait que ce soit un logiciel libre les aide à sortir un petit peu du bois et à se faire connaître. Donc c'est plutôt pas mal.
Le Monde.fr, Gaël Krikorian, l'OMC pourrait décider que la propriété intellectuelle ne s'applique pas aux produits Covid-19. Un article de Claire Legros.
Et oui, parce que la propriété intellectuelle, donc les brevets, les droits d'auteur, les marques et pas mal d'autres choses, ça s'applique à tout, hein, tout le temps. On va en parler un petit peu après.
Ouais, ce sera notre sujet principal.
C'est intéressant.
ZDNet France, le gouvernement va créer une mission logiciel libre et commun numérique, un article de Thierry Noisette.
C'est Jean Castex qui se lance et ça suit un rapport de Botorel.
Un rapport Botorel.
Et dont on a parlé plusieurs fois, il en a été question, on a pas mal parlé aussi. Donc des trucs assez importants sur l'open data, le libre, des choses qu'on aime beaucoup généralement.
Donc on va commencer par discuter de ce truc qui est dans le paysage depuis des décennies. On a bon espoir que ça débouche sur quelque chose, mais bon, voilà, c'est encore une commission supplémentaire. BFM TV, j'ai commencé par un graphique dans ma chambre au mois de mars, comment Guillaume Rosier a fondé le site Covid Tracker, un article de Guillaume Descours.
Donc ça passe sur une grosse chaîne bien connue, BFM TV, ça a été repris aussi dans les grandes gueules, waouh, des super trucs de référence.
Oui.
Je sais que tu aimes, hein, ne le cache pas. Je te vois le regarder régulièrement, t'es un grand amateur. Et ben là, il montre un petit gars qui fait des choses pas mal, informatiquement, des choses assez innovantes, des présentations de données originales qui sont largement basées sur de l'open data, des données qui sont disponibles et qui permettent justement d'en faire quelque chose d'autre que juste les laisser brutes dans leur coin. Non, au contraire, on peut les utiliser, faire des moyennes, faire des projections, des comparaisons. Il y a tout un travail qui peut donner lieu grâce à ces bases. Donc c'est plutôt intéressant et on aime bien en parler. Ça me fait plaisir en plus quand c'est BFM qui met ça en avant, je trouve ça génial.
Moi, je vais te faire un procès pour diffamation pour ce que tu as dit au début là.
J'ai dit quoi?
Le fait que je regardais ces trucs à la télé.
Ah, mais c'est en douce, donc non, mais on en parlera plus. Non, on oublie.
Donc, on va parler propriété intellectuelle, notamment liée au Covid, puisque donc il y avait cet article universitaire, Gaël Krikorian, qui a soutenu une thèse sur ce sujet-là. Et qui, dans cette interview, dit qu'on aurait les moyens, au niveau international, d'alléger le régime de la propriété intellectuelle pour aller plus vite sur les vaccins, leur production, leur diffusion, etc.
Alors, propriété intellectuelle, allez, tu me rappelles ce que c'est ?
C'est un domaine du droit qui s'intéresse à un panel de domaines, dans lequel il y a les brevets notamment, mais aussi les droits des marques, les designs et modèles, je crois. Après, bon, je ne suis pas expert. En tout cas, voilà, c'est l'idée de mettre de la propriété sur des trucs purement immatériel, donc ce qui nous chagrine beaucoup.
Oui, régulièrement, on a tendance à dire que propriété et intellectuel, c'est antinomique. Ce sont des concepts qui n'ont pas lieu d'être approchés parce qu'une idée, ça se partage, ça se copie, ça se duplique, ça s'améliore. C'est les principes de la science, c'est les principes du logiciel libre. Donc c'est un peu énervant de voir qu'on veut les figer et dire, soi-disant, qu'on veut les protéger et permettre peut-être de quoi créer, innover, commercialiser plus facilement, c'est un petit peu énervant sur le principe.
Oui, alors, premier truc, c'est que même si ça nous embête, ça existe. Il y a une idée qui traîne parfois dans le monde libriste en disant c'est même pas une notion juridique. C'est faux, il y a un code de la propriété intellectuelle, il y a des universitaires qui sont spécialisés là-dedans, il y a des formations,
il y a un organisme mondial.
Voilà. Donc, aussi mal que ça puisse nous faire, ça existe. Et puis, de fait, les gens qui vont parler de libre vont considérer ça aussi comme de la propriété intellectuelle, mais juste avec une vision différente.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir la propriété intellectuelle. Soi-disant, c'est quelque chose qui améliore et qui aide l'innovation et la science, mais là, non, c'est quelque chose qui freine, qui bloque, et qui freine, qui bloque l'utilisation et la répartition de médicaments, notamment.
Oui, alors c'est un domaine qui est très, très idéologique, avec cette idée qu'on traîne depuis des décennies, que la propriété, c'est bien parce que ça motive les gens, et que dès lors qu'on peut faire du profit, alors l'innovation, blablabla. Et maintenant qu'on est dans une situation de crise, on s'aperçoit que c'est pas vrai. On le savait avant, on n'avait pas trop de doutes là-dessus.
Oui, mais on voulait pas vraiment savoir.
Oui, il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Il y a plein de gens qui sont exprimés là-dessus, donc ça dépasse complètement la question du logiciel libre. Il y a de la propriété intellectuelle dans le domaine des semences, dans le domaine de la culture.
Dans le domaine des gènes et de la biologie.
Oui, oui.
Des choses assez bizarres et fortes.
Avec cette idée terrible de s'approprier le monde au final, parce que toutes ces informations, notamment celles de la nature, en théorie, elle ne devrait appartenir à personne, hein, c'est la nature, donc il n'y a pas de raison de mettre un titre dessus.
Et il y a encore pas si longtemps, on parlait des brevets logiciels qui ne sont rien d'autre que des blocages sur des idées, hein, des concepts, des algorithmes.
Et oui, oui, et avec cette idée également de dévoyer, puisque dans le brevet, initialement, c'est appliqué à l'industrie, alors ça peut être critiqué, mais ça avait un certain objectif. Et on a également, dans notre bonne logique, d'avoir des gens qui mettent la main sur les choses et qui essayent de se faire des rentes, un dévoiement des principes initiaux, qu'on peut eux-mêmes contester, mais leur dévoiement est encore plus contestable, puisque l'idée, c'est de tout tuer. On en a largement parlé il y a quelques années, quand il y avait des guerres sur les brevets logiciels aux États-Unis.
Donc entre Apple et Samsung, entre IBM et je ne sais plus,
Google et,
il y avait des Google et Oracle sur des droits d'auteur.
Tout le monde s'est mis là-dedans, avec chacun ayant des brevets qui sont des idées sur la façon dont on utilise du logiciel, comment on implémente des idées logiciellement, et ils se sont fait des procès à coups de milliards, ça coûtait une blinde. Ça a des tas d'effets négatifs, notamment le fait que les petits là-dedans, les PME, les particuliers, bah, ils pèsent rien, puisqu'en fait c'est une sorte de guerre de tranchées. Comme bah, dans l'informatique, il n'y a pas 36 000 façons de faire et qu'on apprend par un petit incrément. Forcément, quand on empiète le brevet de quelqu'un et qu'il vous attaque, lui-même va empiéter éventuellement des brevets qu'on a nous. Et donc ça favorisait les gros mastodontes qui se sont fait la guerre. Et tout le monde se réunissant là-dedans, quoi.
Alors, ça avait fait tâche, hein, aux États-Unis. Au bout d'un moment, on s'était rendu compte que c'était quand même un peu idiot. Même la Cour suprême avait commencé à faire « Non, mais là, les gars, calmez-vous. Ouais. Vous avez peut-être un petit peu abusé sur les litiges, les cours de justice.
Bah, » Ils s'ont aperçu que c'était en fait super néfaste pour l'économie. Alors, en Europe, chez nous, c'est interdit. Mais il y a eu des batailles extrêmement féroces qui ont été menées dans les années 2000 par des libristes notamment, pour que cette propriété intellectuelle sur le logiciel ne s'installe pas.
Alors c'est interdit, mais ça existe quand même. Hein. Rappelons, voilà, il y a quand même des brevets logiciels, c'est bizarre, mais personne ne les exploite parce que, ah non, normalement,
oui,
ils ne devraient pas exister.
Oui, ils les déposent au cas où, etc. Mais voilà, il y a plein de gens qui ont plein d'argent à faire là-dessus. Donc par rapport au Covid, on est dans un domaine dans lequel la propriété intellectuelle s'applique totalement et de plein droit. Hein. C'est là déjà bien verrouillé. Et on pourrait entendre cet argument des labos qui disent « Mais nous, on a investi, on a plein de gens qui ont travaillé, on a éventuellement payé nous-mêmes des droits, je pense, à la technologie qui permet de faire les vaccins à ARN messager, qui a été découvert par une université américaine, et les labos qui l'utilisent ont payé des droits pour pouvoir exploiter cette technologie, enfin ce truc qui a été découvert par cette université. » Donc ils peuvent dire « Nous, on est là pour gagner de l'argent, et on investit beaucoup, donc c'est normal qu'on nous paye, on ne va pas se ruiner, parce qu'il y a une crise, quoi. »
Mais on peut l'entendre, hein, le fait qu'il y ait une rentabilité, ou au moins que les gars ne perdent pas de l'argent, on l'entend. Je crois que c'est plus ou moins admis. Mais ce qui nous embête, c'est que parfois, il y a des abus et beaucoup de profits qui peuvent être faits sur des blocages de médicaments. Alors là, dans le cadre du Covid, je ne suis pas sûr que ce sera le cas, parce que c'est quelque chose de très surveillé. Mais on sait qu'il y a eu des médicaments dans le passé où les prix ont été augmentés par 1000 en une nuit. Parce que le dirigeant de l'entreprise, il avait décidé, voilà, je fais un médicament, je suis le seul sur le marché, eh bien là, du jour au lendemain, j'augmente son prix. Et comme je suis le seul qui a le droit sur ce marché d'utiliser cette formule, cette molécule, je ne sais plus ce que c'était exactement, eh bien personne d'autre ne pourra aller chercher un autre médicament, vous serez obligé de passer par moi. Donc le gars était connu comme quasiment l'homme le plus détesté du monde à ce moment-là.
Oui, oui, effectivement, alors son nom m'échappe sur l'instant, mais il avait hérité du nom du mec le plus haï d'Internet. Et quand tu voyais sa tête, en plus de ça, t'avais vraiment eu de le gifler, c'était horrible. Le type, il avait vraiment la gueule de l'emploi.
Mais pourtant, ouais. Il utilisait juste les lois telles qu'elles existent, oui, oui. Et il avait tout à fait le droit de son côté. Oui, il pouvait dire du jour au lendemain, eh bien, mon médicament, maintenant, c'est 10 fois plus cher, c'est comme ça.
Voilà. Bon, il y a eu des tonnes d'abus dans ce domaine-là. Si on revient au Covid, on peut dire aussi que, vu la vitesse insuffisante à laquelle les vaccins sont produits, eh bien, on devrait, pour gagner du temps, permettre à plein de labos dans le monde de se mettre au boulot et de produire plus de vaccins plus vite.
Ouais, mais ça, c'est impossible. Comment tu veux organiser un truc comme ça? Ça s'est jamais vu.
Pendant les guerres, je veux dire, quand on est au pied du mur et qu'on est en période de crise, on arrive à s'organiser. Alors, il reste toujours des questions d'économie. Hein. Les profiteurs de guerre, c'est une réalité. Plein de gens qui s'enrichissent beaucoup. Mais on arrive quand même à faire sauter les verrous organisationnels et de propriété, etc., pour aller vite et résoudre les problèmes critiques au plus vite.
Tu veux dire quoi? Il y aurait eu des outils pendant la guerre qui auraient été partagés alors que ce n'était pas les créateurs, les inventeurs qui les mettaient en place?
Oui, notamment dans l'aviation. Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient leur industrie de production dans l'aviation. Les Anglais étaient très bons sur les moteurs, par exemple. Ils ont envoyé des ingénieurs pour monter des usines, au Canada notamment, pour faire des avions anglais. Et à l'inverse. Et avec cette idée aussi de se dire, si les Allemands arrivent à envahir la Grande-Bretagne, il faut quand même qu'on ait nos backups derrière. Alors derrière, à chaque fois, il y a eu des questions de finances. Hein. Puis les États-Unis sont sortis très riches de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on n'oublie jamais son intérêt. Mais en tout cas, on peut faire sauter des règles entre-temps.
Et il me semble bien que dans les règles de la propriété intellectuelle, il y a des clauses spécifiques dans les cas d'urgence. On a le droit de faire sauter les blocages. Et bien là, si on est en période de guerre contre le Covid, ça paraîtrait naturel qu'on ait le droit d'utiliser les médicaments, les vaccins, les molécules qui vont bien, et de les produire dans des endroits où on peut les produire en grand nombre, de qualité. Ça existe déjà, hein, c'est les médicaments génériques. Les médicaments génériques, ce sont ceux qui ne sont plus bloqués et soi-disant protégés par différents droits. Et donc, ils peuvent être produits en grand nombre et à bas coût, généralement.
Et puis, tout ça nous permet aussi de prendre du recul et par rapport à cette vision qu'on a du logiciel libre, et du libre en général, c'est que la justification idéologique de la propriété intellectuelle, notamment par rapport à l'innovation, c'est de dire, si les gens ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent et devenir milliardaires, hein, à la mode Macron, tu vois, alors personne ne sera motivé pour innover. Or, c'est faux. Enfin, y a
on
plein
le voit
de gens,
dans le logiciel libre. Hein,
Voilà, on le voit dans le logiciel libre. On voit dans l'article que tu as cité tout à l'heure du gars qui a fait son site web avec les données du Covid. Voilà, il était là, il était bloqué chez lui, il avait envie, il l'a fait. Alors effectivement, quand on veut faire des trucs très compliqués, il faut mettre en œuvre des structures importantes avec une organisation, etc. On ne peut sans doute pas faire un vaccin contre le Covid rapidement quand on a 10 personnes qui collaborent entre elles dans leur coin sans avoir de l'argent pour avoir du matériel sophistiqué et sans découper le travail avec des parties qui vont pas être marrantes et où les gens vont pas la faire par passion. Mais il n'en demeure pas moins que le fait que quelqu'un devienne très riche au-dessus, c'est pas impératif.
Alors moi, j'ai un super contre-exemple de ce qui se passe avec l'industrie pharmaceutique, c'est Didier Pitet. Alors Didier Pitet, on ne le connaît pas assez, c'est celui qui a inventé et qui a partagé la formule du gel hydroalcoolique. Et donc, il l'a offert à l'humanité, et le gel hydroalcoolique, c'est quelque chose, maintenant, on vit avec tous les jours, on le connaît, on ne peut mieux. Eh bien, c'est une invention assez récente, et le gars qui a fait ça, faut qu'on se rappelle de lui, Didier Pitet, c'est un grand homme. Mais il n'est pas devenu milliardaire grâce à ça, il me semble.
Quel loser.
Oui, on pourrait dire ça. Bon. Mais il a peut-être sauvé pas mal de monde, donc il rentrera peut-être dans l'histoire grâce à ça.
Oui, ou alors ça va contribuer à développer des souches de bactéries résistantes.
Oh, tout va le mal, tout va le mal. Oui, voilà. Effectivement, il y a toujours des possibilités. Mais quand on passe à la recherche pharmaceutique, tu le disais toi-même, les molécules et les vaccins, les éléments des vaccins ont été découverts par la recherche publique. Donc ce ne sont pas des entreprises qui les ont développés, en tout cas qui les ont découverts. Certes, la mise sur le marché, c'est quelque chose de compliqué, de long, de douloureux, de coûteux. Là, je peux comprendre qu'il faut des structures. Mais quand même, non, la découverte elle-même, c'est public.
Oui, oui. Et après, tu peux imaginer qu'un acteur privé puisse faire cette découverte-là, mais si l'enjeu est là, c'est important. Par rapport à cette question des mises sur le marché, on a aussi des contre-exemples. On peut prendre donc les États-Unis qui sont en théorie notre ligne de mire, système ultime.
C'est ton contre-exemple préféré.
On en est parlé régulièrement, c'est un truc que j'ai découvert et que je trouve mais complètement incroyable, qui est la crise des opioïdes. Donc il y a une boîte pharmaceutique américaine qui s'appelle Purdue Pharma et qui a, de sa 20 ans, a réussi à convaincre tout le monde que les opioïdes c'était trop bien comme antidouleur et que toute la réputation du fait que ça rendait accro était complètement superflue.
Oui, mais il y avait des trucs, ils disaient attention, faites gaffe au dosage, et si vous faisiez le bon dosage, il n'y a pas de problème, faites-nous confiance, il n'y aura pas de souci.
Voilà, donc de fait, aux États-Unis, il y a eu des centaines de milliers de morts, donc il y en aurait eu de toute façon parce que les gens tombent dans la drogue, mais beaucoup sont tombés dedans. Alors j'ai lu par exemple que la série Friends, le mec qui joue Chandler, je crois, je connais pas bien la série. Lui, suite à un accident, est devenu sérieusement accro aux opioïdes et il a perdu plusieurs années de sa vie dont il ne se souvient absolument pas. Et donc le système de régulation, et l'appel du gain en disant on va devenir très très riche parce que le système le permet, n'a pas protégé les Américains de ce genre de système de prédation. Et donc tout le système de mise sur le marché, de vérification, en disant profit c'est bien mais on est des gens responsables, non, le profit dans ce cas-là a réussi à passer bien au-delà de la santé des gens.
On rappelle, le système de santé américain, c'est par individu 3 fois plus cher qu'en Europe.
Oui, à prestation égale, beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on peut avoir en Europe.
Donc au final, on pourrait remarquer, il y a d'autres systèmes alternatifs. Il y a moyen de mettre en commun, et de partager, d'innover ensemble. Et on n'est pas obligé de passer par le profit, c'est pas le seul moteur de l'humanité.
Voilà, et ça rappelle que tout est politique. Et que du coup, on peut dire, c'est juste du business, l'argent est neutre, tu vois, il y a cette idée de l'argent, il est censé ne pas avoir d'idéologie. Si, l'argent a une idéologie, et quoi qu'on fasse, quand une règle est prise, il y a toujours une dimension idéologique là-dedans. Et c'est important qu'on garde ça à l'œil et qu'on se mobilise sur ce genre de sujet. C'est nos vies.
Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
Si on survit au Covid.